Le journal, Anaïs Feuga.
Bonsoir à tous. Les pays européens peuvent et doivent faire mieux pour accueillir les 11 000 réfugiés à la rue sur l'île grecque de Lesbos. Mise en garde très forte du secrétaire général de l'ONU. Vous l'entendrez dans ce journal. Paris perdu pour les gilets jaunes. Journée test négative pour la reprise de la mobilisation. Colère en revanche des chasseurs. Vous les entendrez dans un instant. Et puis le Tour de France, victoire danoise. Mais Roglic toujours en jaune à Lyon. Un air chaud venu d'Afrique. Température à plus de 33 degrés dans les prochains jours. Nous dira Météo France.
France Inter.
Comment sortir de la situation intenable sur l'île de Lesbos depuis l'incendie du camp de Moria mardi soir? Moria, un camp insalubre, surpeuplé, où les réfugiés ne veulent plus être enfermés. Alors le gouvernement grec a monté à la va-vite des tentes dans un grand champ clôturé pour reloger dès ce soir 3000 personnes sur les 11 000 migrants, dont 4000 enfants qui dorment depuis 4 jours dans la rue, sur le bitume des routes ou dans un cimetière. Mais les réfugiés n'en veulent pas. Certains attendent leur asile depuis plus d'un an. Et ce matin, des centaines d'entre eux ont manifesté avec des pancartes clamant « Nous voulons quitter Moria, liberté ». Ils ont jeté des pierres vers la police qui a répliqué avec des gaz lacrymogènes. Alors l'initiative franco-allemande pour accueillir 400 enfants ne peut plus suffire, dit le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui enjoint les pays européens d'agir.
C'est une tragédie immense à l'intérieur d'une autre tragédie immense. Il y a une question de court terme. À mon avis, la seule solution, c'est le transfert de ces réfugiés sur le continent. Et j'espère qu'il y ait de la solidarité européenne. J'ai vu une initiative française et allemande, mais je crois qu'il faut aller plus loin. Mais le drame, à mon avis, vient de loin. J'ai vécu la crise des réfugiés syriens en tant que haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Et vraiment, la réponse européenne a été complètement chaotique. L'incapacité des pays européens de, ensemble, définir une méthodologie de réception et de distribution des réfugiés. Cet manque de coordination a créé ce chaos. On ne peut pas demander au pays qui est à la frontière de tout résoudre. Il faut qu'il y ait un partage de responsabilités à l'intérieur de toute l'Union européenne. Mais pour le moment, je crois, la seule solution possible, c'est le transfert immédiat de ces réfugiés sur le continent.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, sur TV5 Monde. Le comité international olympique se dit choqué. Un lutteur iranien de 27 ans a été exécuté ce matin. Il avait été condamné à mort pour le meurtre d'un fonctionnaire lors des manifestations de 2018 en Iran. Le président du CIO en avait personnellement appelé au guide suprême cette semaine. Pendant son procès, les soutiens de Navid Afkari avaient dénoncé des aveux extorqués sous la torture. Les secours sont sans nouvelles de dizaines d'habitants de l'Oregon aux États-Unis dévorés par les incendies et les autorités s'attendent de leur propre aveu à un nombre considérable de morts. Les zones menacées par ces feux concernent un demi-million d'habitants et un peu plus de 40 000 personnes ont pu être effectivement évacuées, parfois sans rien emporter et laissant derrière elles des souvenirs ou des papiers importants. La gouverneur de l'État pessimiste. Les incendies de 2020 ne sont que des précurseurs de l'avenir, dit-elle. Nous voyons les effets dévastateurs du changement climatique. Un changement climatique auquel nous devrions faire plus attention, la mise en garde du Dalai Lama au G7, qui appelle les pays développés à se mobiliser davantage pour l'environnement. À Strasbourg, un demi-millier de participants cet après-midi pour une marche pour le climat, rejoint par la quarantaine de gilets jaunes strasbourgeois, car c'est peut-être les prémices d'une mobilisation ou alors le baroud d'honneur d'un mouvement qui n'aura pas survécu à la crise sanitaire du coronavirus. Faible participation aujourd'hui des gilets jaunes pour leur rentrée. Un millier de personnes dans les deux manifestations autorisées à Paris. Plus de 200 interpellations, une voiture brûlée. Ailleurs, des rassemblements à Nancy. Quelques centaines de personnes, tout comme à Bordeaux, Nantes ou Grenoble ce matin. Ou encore ici, à Montpellier, où Richard, sur son rond-point, ne baisse pas les bras.
Nous, on n'est jamais parti, donc on ne revient pas. Sur ce rond-point près d'Arène à Montpellier, on y est depuis bientôt 2 ans, toutes les semaines, donc on ne revient pas. Et pour nous aujourd'hui, pour le rond-point de près d'Arène, ce qui se passe aujourd'hui ici sur ce rond-point, c'est l'ordinaire, c'est-à-dire des journées comme ça, on en a fait tout un tas. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que sur l'ensemble de la France, il y a une tentative de reprise ou de prise de rond-point pour montrer que les gilets jaunes, depuis 2 ans, ont toujours les mêmes revendications, qui sont toujours là, même sur le nombre a diminué pour plusieurs raisons différentes, mais que les revendications, les raisons pour lesquelles il y a eu ce soulèvement il y a 2 ans, il est toujours là. La reprise des ronds-points, c'est la continuité d'un mouvement.
Richard, un retraité de l'éducation nationale, au micro d'Elena Loison de France Bleu Hérault. Pour eux, l'idée était d'occuper le terrain médiatique. Les chasseurs, venus d'une dizaine de départements dans la ville du Premier ministre à Prades, dans les Pyrénées-Orientales, pour défendre la chasse traditionnelle, comprendre la chasse à la glu. Le reportage de Sébastien Berriot.
On a des engagements qui se sont envolés de M. Castex. Pour nous, c'est du mépris.
C'est pour ça que les chasseurs ont choisi la ville de Jean Castex pour se rassembler. Les manifestants disent que le Premier ministre s'était engagé cet été à maintenir des quotas sur la chasse à la glu. Mais le gouvernement a finalement renoncé. C'est purement politique pour Éric Camoin, le président de l'Association nationale des chasses traditionnelles.
C'est écalé. Et là, tout à coup, revirement de situation. Enfin, même M. Castex, on ne l'a même pas entendu. Mais M. Macron a annoncé des quotas à zéro. Et là, on est en train de voir que toutes les chasses traditionnelles sont en train de tomber par de l'idéologie simplement d'une personne dans un ministère de l'écologie et M. Macron qui regarde et qui ne dit rien.
La chasse à la glu, qualifiée de barbare par certains, pas du tout, répond Robert, ce chasseur qui avait fait le déplacement du Vaucluse.
On fait croire aux gens que la chasse à la glu, c'est d'attendre qu'un oiseau s'épuise pour mourir et le récupérer. C'est l'inverse qui se passe. Dès que l'oiseau est englué, on va prendre le plus de soins possible pour le défaire, parce qu'on veut le conserver vivant, pour renouveler nos appelants.
La colère était palpable dans le cortège. Pour éviter des incidents, les organisateurs avaient appelé les chasseurs à ne rien casser dans le centre-ville de Prades. Un gros dispositif de gendarmes était déployé et il n'y a finalement pas eu d'incident.
Sébastien Berriot de France Bleu Roussillon. Par ailleurs, une victoire amère pour la Ligue de protection des oiseaux. Elle a été entendue par le Conseil d'État qui inflige un camouflet au ministère de l'écologie qui avait autorisé la chasse de 17 000 tourterelles des bois. Mais la population de ces oiseaux migrateurs a chuté de 80% en Europe ces 40 dernières années. Du temps perdu, dit la LPO, depuis l'ouverture de la chasse, près de 7 000 oiseaux ont déjà été tués. Le Premier ministre sort de son isolement. Jean Castex a été testé négatif au coronavirus. De son côté, AstraZeneca reprend ses tests pour un vaccin au Royaume-Uni. Il ne présente pas de danger. Une arrivée comme en plein été sous les 30 degrés de Lyon pour la 14e étape du Tour de France. 194 km depuis Clermont-Ferrand. Du public dans la côte de la Duchère et celle de la Croix-Rousse. Bonsoir Jérôme Cadet.
Bonsoir Anaïs, bonsoir à tous.
Une étape passionnante, un final haletant et c'est un homme seul qui s'impose.
Oui, les sprinteurs rêvaient d'une dernière opportunité avant le retour de la montagne. Dernière opportunité pour briller. Le final en faux plat descendant qu'est Jean Moulin sur les bords du Rhône paraissait favorable, mais la traversée du Livradois Forez leur a été fatale. C'est d'abord l'équipe du Slovaque Peter Sagan qui a roulé pour décrocher ses concurrents pour le sprint. Objectif atteint, les Ewan, Cocard et Bennett ont lâché dès le col du Béal. Mais l'équipe allemande a été incapable de terminer le travail et de maîtriser le final. Les Français Julien Alaphilippe et Valentin Madouas ont tenté leur chance dans les rues de Lyon devant une foule compacte et nombreuse, mais c'est finalement le Danois Søren Krag Andersen qui a faussé compagnie au peloton à 3 km de l'arrivée pour s'imposer en solitaire, c'est le cas de le dire, puisque le public était tenu à distance de la ligne pour cause de huis clos. Au général, le maillot jaune reste sur les épaules du Slovène Primoz Roglic. Des coureurs félicités par Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, qui trois jours après ses propos sur le Tour machiste et polluant selon lui, s'est dit très heureux d'accueillir le peloton dans sa ville.
Jérôme Cadet en direct depuis Lyon. A noter qu'AG2R a perdu un deuxième coureur après Bardet-Hier. Pierre Latour a abandonné. Demain, redoutable étape Lyon-Grand-Colombier avec une arrivée au sommet. Et puis Neymar de retour dans le groupe du PSG pour affronter Marseille demain en Ligue 1. Il avait été testé positif au coronavirus début septembre. Neymar qui devient aussi la tête d'affiche de l'équipementier allemand Puma après 15 ans de contrat avec Nike.
La météo avec Via Santé, la mutuelle d'AG2R La Mondiale. Avec Via Santé, plus que jamais, devenez acteur de votre santé. Et vous aujourd'hui, comment ça va ?
Jean-Michel Golinski, Météo France.
Vers un temps progressivement de plus en plus chaud d'ici le début de la semaine, avec pour lundi des valeurs moyennes de 33 degrés sur la plupart des régions. Ce dimanche après-midi, l'air chaud arrivant d'Afrique va déjà permettre d'atteindre des températures estivales de l'ordre de 25 à 30 degrés dans la moitié nord et de 30 à 35 dans la partie sud, avec à la clé un soleil très rayonnant. Toutefois, les brouillards et les grisailles seront très fournis aux premières heures près de la Manche, entre la Bretagne et la frontière belge. Des brouillards également à prévoir au lever du jour sur les Landes. Et l'après-midi, des cumulus sans conséquence vont se former sur les massifs.